Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. En considérant les écrits de l'apôtre Jean, nous réfléchissons sur les derniers discours que Jésus a prononcés avant sa crucifixion. Lors de cette deuxième série, nous abordons le chapitre 14 de son évangile. Notre lectrice va tout de suite nous lire les versets 7 à 11 de ce chapitre, et ensuite Colin nous rejoindra pour nous aider à les comprendre.
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi ? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir.
Merci. Lors des deux dernières émissions, nous nous sommes penchés sur les paroles bien connues de Jésus. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et les paroles lues par notre lectrice font suite à cette déclaration. À présent, nous accueillons Colin sur le plateau pour nous aider à comprendre le message de Jésus. Colin, bonjour.
Merci Ian et bonjour à tous. Jésus affirme que si nous le connaissons, nous connaîtrons aussi son Père, c'est-à-dire Dieu le Père. Ensuite, nous apprenons que Philippe, l'un des disciples, lui demande « Seigneur, montre-nous le Père ».
Il semble que Philippe n'ait rien compris au propos de Jésus.
C'est vrai Ian, c'est un exemple de plus de la lenteur d'esprit des disciples. Ils avaient vraiment du mal à comprendre ce que Jésus cherchait à leur expliquer. Cependant, il ne faut pas les juger trop vite, car nous aussi, il faut l'avouer, nous sommes tous aussi lents à comprendre. Ce que je voudrais souligner, par contre, c'est la patience de Jésus. Oui, il a repris Philippe, mais j'ai le sentiment qu'il l'a fait gentiment. Jésus ne s'est pas énervé. Ses paroles n'étaient pas remplies de mépris. Il n'a pas baissé les bras non plus. Non, Jésus a pris le temps d'expliquer ses vérités importantes une fois de plus. Il faut l'admettre, ce sont des vérités difficiles à comprendre et difficiles à accepter, surtout pour un juif du premier siècle. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais tout d'abord je voudrais insister sur le fait que Jésus est tout aussi patient avec nous aujourd'hui qu'il a été avec Philippe. Jésus passe du temps avec nous. Il nous accorde le temps qu'il faut, le temps pour comprendre, et le temps pour changer. En ce qui nous concerne, je voudrais encourager cette même patience dans nos relations les uns avec les autres. Nous encourager à accepter le fait que, souvent, certaines personnes autour de nous mettent du temps à comprendre les vérités bibliques. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut persévérer avec patience et douceur à l'exemple de Jésus. Il faut prendre le temps pour bien expliquer le message biblique et le répéter aussi souvent que c'est nécessaire.
Merci pour ces bons conseils. Revenons maintenant au propos de Jésus. Vous affirmez qu'un juif du premier siècle aurait eu du mal à les comprendre, à les accepter. Pourquoi?
Parce que Jésus affirme à deux reprises « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ces paroles énigmatiques révèlent l'intimité et l'harmonie dans la relation qui unissait Dieu le Père et Jésus le Fils. En réalité, ce n'est pas la première fois que Jésus a fait une telle déclaration. En Jean 10, au verset 30 et 31, nous lisons « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider.
Ainsi, pour les Juifs de cette époque, affirmer une telle unité avec le Père représentait un véritable scandale, un blasphème, méritant la lapidation.
Tout à fait. Les savants juifs avaient bien compris Jésus. Selon eux, par ses propos, Jésus affirmait qu'il était Dieu incarné, et cela, ils ne pouvaient pas l'admettre. Ils étaient très choqués et voulaient le lapider. Les Juifs croyaient fermement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et nous aussi nous le croyons. Cependant, la vérité qu'ils avaient du mal à saisir, mais que nous avons appris à reconnaître, est celle du mystère de la Trinité, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais qu'il existe en trois personnes, si étroitement unies qu'il s'agit d'un seul être, le Dieu éternel. Ainsi, ce seul et même Dieu existe en trois personnes que nous appelons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais en la personne de Jésus-Christ, nous rencontrons un mystère de plus.
Lequel ?
Jésus était pleinement homme. Il avait tous les attributs humains. Il était aussi Dieu le Fils. En la personne de Jésus, Dieu s'est fait homme. En la personne de Jésus, Dieu vivait avec nous.
Ce sont effectivement des vérités profondes qui dépassent notre entendement. Il n'est pas surprenant que Philippe ait eu du mal à saisir les propos de Jésus.
C'est vrai, et je voudrais patiemment répéter ces vérités, tout en priant pour que l'Esprit de Dieu éclaire nos cœurs et nous aide à toujours mieux comprendre le message divin. Mais je voudrais aussi me pencher davantage sur les paroles de Jésus que voici. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Philippe a demandé « Montre-nous le Père ». Sa question était révélatrice d'un désir de connaître Dieu, mais il s'est senti un peu perdu. Comment connaître Dieu le Père? Quel est son caractère?
Jésus a répondu que si nous le connaissons, lui, Jésus, nous connaissons forcément Dieu le Père aussi.
C'est exact, Ian. En français, le dicton « tel père, tel fils » est assez courant. Cela signifie qu'un enfant ressemble souvent à sa mère ou à son père, non seulement physiquement, mais aussi dans son caractère. Parfois, cette ressemblance est une bonne chose, parfois le contraire. Un enfant grandit dans la présence de ses parents. Il assimile très facilement les éléments de leur caractère, de leurs gestes, de leur comportement, de leur façon de parler.
C'est vrai. J'ai récemment assisté à une réunion familiale où j'ai rencontré un cousin que j'avais perdu de vue et qui ressemble beaucoup à son père, mon oncle. J'ai même cru que je retrouvais mon oncle, tant la ressemblance était frappante, car en regardant mon cousin, je revoyais mon oncle. Mais revenons à Jésus.
Bien sûr. Vous venez de dire qu'en regardant votre cousin, vous aviez le sentiment de voir votre oncle. Et cela est d'autant plus vrai avec Jésus. En portant nos regards sur lui, nous rencontrons Dieu le Père. Au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Philippe devait se dire qu'effectivement, personne n'a jamais vu Dieu. Cela tenait de l'impossible. Comment donc le connaître? Toutefois, puisque Dieu le Fils et Dieu le Père ne sont qu'un, et que Dieu le Fils est venu en la personne de Jésus-Christ, nous pouvons affirmer que celle ou celui qui connaît Jésus connaît le Père. La ressemblance est parfaite. De ce fait, si Jésus était rempli de compassion et qu'il faisait preuve de miséricorde et de grâce, nous pouvons en conclure que Dieu possède aussi ces mêmes qualités. Si Jésus était patient, doux et fidèle, nous comprenons que Dieu aussi l'est. Si Jésus est pur et droit, qu'il se comportait avec justice et intégrité, alors Dieu aussi. Si Jésus était généreux et servait les intérêts d'autrui, s'il était prêt à faire des sacrifices coûteux, alors Dieu aussi agit de même. Si nous croyons que Jésus était amour, alors nous pouvons en déduire que Dieu aussi est amour. Je pourrais continuer cette liste, mais vous comprenez bien le principe. Dieu le Père et son Fils Jésus sont tellement unis et la ressemblance tellement forte que ce que l'on affirme de l'un est vrai pour l'autre. Il est vrai que Dieu le Père reste invisible, mais Jésus est celui qui le révèle et nous le fait connaître. Si nous voulons connaître le Père, nous devons rencontrer Jésus et le contempler. Nous l'avons déjà appris la dernière fois que pour venir au Père, il faut passer par Jésus. Il est incontournable.
Merci, Colin. Il existe cependant une grande différence entre nous et son disciple Philippe. Ce dernier pouvait parler à Jésus face à face, quand Jésus se tenait là, devant lui, en chair et en os. Il était témoin de tout ce que Jésus faisait, de tout ce que Jésus déclarait aussi, car il a suivi son maître pendant 3 années. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous de la même manière. Il est ressuscité d'entre les morts, certes, mais il demeure aujourd'hui dans les lieux célestes. Nous ne pouvons plus le voir de nos propres yeux, ni l'entendre de nos propres oreilles.
C'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire. Et en fait, les disciples aussi allaient bientôt vivre cette même situation. C'est justement pour les aider à s'adapter à ce grand changement que Jésus a prononcé ce discours que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 à 16. Il allait retourner auprès de son Père dans les lieux célestes. Les disciples allaient devoir apprendre à vivre leur relation avec lui différemment.
D'accord. Nous en apprendrons beaucoup plus en avançant dans notre étude sur ces chapitres. Mais pour conclure aujourd'hui, quelle est la pertinence, pour nous, des paroles « Celui qui m'a vu a vu le Père ».
Nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Qui est Dieu le Père? Comment est-il? Quel est son caractère? Selon ces paroles de Jésus, les meilleures réponses se trouvent dans sa propre personne. Mais comme il n'est plus parmi nous en chair et en os, nous trouvons les réponses à ces questions dans la Bible, et notamment dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles relatent la vie, le ministère, l'enseignement et les miracles de Jésus. Ils décrivent aussi les grands événements de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Par la lecture ou l'écoute des évangiles, nous apprenons à connaître Jésus et en connaissant Jésus, nous connaîtrons aussi Dieu le Père. Je voudrais vous encourager, chers amis, à passer du temps à lire les évangiles et à en méditer leur contenu afin de contempler la grâce et la gloire de Jésus-Christ. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous ne possédez pas une copie personnelle de la Bible. C'est pour cette raison qu'il est important que la Bible, et notamment les évangiles, soient lus lors des cultes et autres réunions d'Église. Il est bon aussi que celles et ceux qui ont une Bible la lisent aux autres, en famille, chez des voisins, en créant des petits groupes de lecture, d'écoute et de réflexion dans les villages et les quartiers. Pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Et pour connaître Jésus, nous avons besoin des sources d'informations fiables à son sujet. Or, ces sources fiables sont contenues dans la Bible. La Bible est l'outil que Dieu a mis à notre disposition pour connaître Jésus. Ce qu'elle contient est vrai. Il faut, en tout lieu, encourager sa lecture et son écoute, car c'est ainsi que nous connaîtrons Jésus et son Père.
Nous remercions Colin pour sa participation enrichissante. Nous serons de retour la prochaine fois pour la suite de notre étude de Jean au chapitre 14. En attendant de vous retrouver tous, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.